It was destroyed and then rebuilt by the Greeks, Romans, Byzantines, Arabs, Crusaders, and Mamelukes.
И что сидим с камерой? Вы что улыбаетесь-то? Здесь не до смеха.
It was destroyed again by Napoleon's army and again rebuilt by the Turks. Then came the British conquest and finally the Israelis.
И как мы этот вопрос будем сейчас решать?
What a history.
Orage, au désespoir, au foot ennemi, les quelques millions de supporters de la baballe sur le gazon ont dû ce matin noyer leur désespoir dans l'eau gazeuse pour se remettre de leur affliction. Pour les aider à retrouver la banane, nous ne pouvons que les inviter à nous rejoindre au Palais du Pharo, où se tient, vous allez finir par le savoir, le 17e Festival international du film documentaire. C'est aujourd'hui l'avant-dernière journée de programmation. Nous allons ce soir essayer de vous en rendre compte et en partager avec vous les meilleurs moments. Pour cela, notre Dream Team de chroniqueurs et chroniqueuses vous livreront leurs impressions sur ce qu'ils ont vu et entendu dans la programmation et en marge de celle-ci. Autour de cette table, en direct du feed, ce soir, Camille et Olivier, salut.
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 Pour que nous puissions voir des films, encore faut-il, c'est plutôt une évidence, mais il faut le dire, encore faut-il qu'ils aient pu être produits, réalisés, distribués et sélectionnés. Autant d'étapes, d'obstacles à franchir pour de jeunes réalisateurs, ce magazine leur est tout particulièrement dédié. Pour évoquer ce parcours du combattant, deux approches assez différentes. J'ai le plaisir d'accueillir Najib Belkadi, qui présentait en ouverture de ce 17e festival du documentaire son premier long métrage, VHS Kahloucha. Bonjour Najib.
Bonjour.
Autre approche, celle de Rachel Benita, venue au film par le biais de la danse. Rachel vient juste d'arriver, tu viens de participer à une table ronde précisément sur le thème de filmer la danse. Bonjour Rachel.
Oui, bonjour.
On va commencer par toi Najib, si tu veux bien. Avant d'évoquer ton parcours, peut-être quelques mots tout d'abord pour décrire ce film VHS Kahloucha.
Un petit sino, oui.
Un film sur le film, en quelque sorte.
Il n'y a pas que le film sur le film, il y a aussi, aussi un regard sur la situation de ce quartier dans lequel on a tourné le film. C'est-à-dire que notre film il raconte un peu l'histoire de ce peintre en bâtiment qui s'appelle Moncef Kahloucha, qui a 46 ans et qui vit dans un quartier assez populaire et assez pauvre de Sousse, en Tunisie, et qui fait des films en VHS. C'est-à-dire qu'il caste ses acteurs parmi les voisins et les copains et les cousins. Et puis, il fait ses films, il les monte sur un deck VHS et puis il les montre dans le café du coin. Et les gens, ils viennent, les gens du quartier, ils viennent, ils prennent leurs billets, ils regardent les films, qui sont généralement des films inspirés un peu des films de genre des années 70, les films de Clint Eastwood, les films de Jim Kelly, toute cette génération un peu, la Blaxploitation aussi, donc tous les films qui passaient dans les salles dans les années 70, voilà. Et donc, c'est pas que le film sur le film, c'est vrai qu'il y a le côté making-of dans notre film, mais c'est aussi on a essayé de suivre aussi le personnage dans son quartier et que l'histoire de Moncef Kahloucha soit la ligne conductrice dans ce qu'on a raconté, c'est-à-dire la vie du quartier, les gens et puis comment ils s'en sortent grâce au cinéma.
Le contexte donc. Docu et fiction, toi tu es réalisateur de documentaires, Moncef Kahloucha y réalise lui des films de fiction. Tu n'as pas manqué de remarquer que dans le cadre de ce festival du documentaire, il y avait un écran parallèle intitulé Be With Me qui était précisément sur les rapports entre le documentaire et la fiction. Qu'est-ce que tu penses de cette espèce de frange intermédiaire qu'on appelle parfois docu-fiction ?
En fait, je crois qu'à part le fait de parler de la docu-fiction en tant que genre, c'est-à-dire un genre présent dans lequel on reconstitue, il y a de la reconstitution de faits réels, de faits historiques généralement, c'est-à-dire que quand on voit, pour vulgariser un peu la notion du docu-fiction, c'est-à-dire que quand on voit par exemple dans un film documentaire une reconstitution réelle à travers la fiction, c'est avec des acteurs, c'est ce qu'on appelle de la docu-fiction. Alors dans notre cas, c'était pas vraiment le cas, mais je crois que de toute façon, dans tous les documentaires et dans même ceux qui sont les plus crus, les plus réels, les plus réalistes, il y a toujours cette cette espèce entre guillemets de manipulation du réalisateur des faits et des réalités. Ça ne veut pas dire qu'on est en train de jouer forcément avec le spectateur. Ça peut aller très loin. C'était Peter Jackson dans Forgotten Silver l'a fait. Il y a aussi des documentaires musicaux qui ont été de faux documentaires. Mais là, on est vraiment dans la manipulation, disons entre guillemets, positive. C'est-à-dire que on peut pas faire un documentaire sans donner son avis, sans avoir un regard sur les images. Donc, parce que si c'est pas le cas, c'est du reportage, c'est du téléjournal. Et donc, je crois que la fiction, elle est toujours là parce que on peut pas se soustraire de ses fantasmes et on peut pas se soustraire de son point de vue par rapport aux images, par rapport aux personnages. Et quand on raconte des tranches de vie, quand on raconte à travers les images des histoires, on peut pas rester sans avis devant les images qu'on présente aux spectateurs. C'est très très important d'avoir un apport et d'avoir un avis sur les images.
Revenons, si tu veux bien, à VHS, ce film que tu présentes. Il présente donc le cinéma qui est réalisé par Moncef Kahloucha. Et son cinéma, on pourrait dire que c'est un improbable carambolage entre les archétypes du cinéma très grand public, hollywoodien, série B, série C, série D, presque jusqu'à Z.
Toutes les séries voilà. Possibles et imaginables.
Et en même temps, de la vie de tous les jours à Assous, en Tunisie. C'est un peu l'idée, c'est un peu Hollywood près de chez soi.
C'est Hollywood près de chez soi dans le sens où quand on suit par exemple l'itinéraire de la fabrication d'un film de Moncef Kahloucha, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire lui il commence avec l'écriture, bon il n'écrit pas un scénario noir sur blanc, c'est-à-dire il n'utilise pas de papier, c'est-à-dire que ça reste toujours des idées qui lui viennent comme ça, des flashs, et puis avec l'aide de son caméraman, ils sortent et puis le casting se fait dans la rue, il n'y a pas d'audition, il n'y a pas d'essai, c'est généralement les gens du quartier qu'il connaît très bien, donc si lui il a besoin d'un bandit dans son film, automatiquement il sait où aller le trouver, donc ça doit être quelqu'un, un tolard, un copain qui habite dans le quartier. S'il a besoin d'un, il a toujours aussi cette classification un peu primaire des personnages, c'est-à-dire lui, s'il est baraqué, lui c'est le bandit, lui s'il est propre sur lui, c'est l'inspecteur avec un côté un peu probablement malicieux dans les yeux. Donc c'est vraiment dans cette veine-là. Et puis après il monte ses films et après il est projeté dans le café du coin. Donc, et on est même parti en Italie suivre la cassette parce qu'il y a des immigrés du quartier qui rentrent en Tunisie, qui prennent la cassette et qui partent. On est parti en Italie les suivre chez la diaspora tunisienne là-bas, les fils du quartier. Et du coup, le film, ça devient de l'ethnologie parce que le film, c'est un lien entre Sousse, entre les gens qui sont là et les autres qui sont partis depuis très longtemps. Il y en a même ceux qui, depuis 10 ans, sont en Italie, ne peuvent pas rentrer en Tunisie parce qu'ils n'ont pas de papier. Et donc, c'est un lien, c'est-à-dire à travers les films, ils voient un peu le quartier, l'évolution de la vie, les copains, les cousins, les femmes, donc tous les gens qui n'ont pas vu depuis très longtemps. Alors, au lieu de passer un coup de fil, voilà, on se regarde un film de Kahloucha et c'est très bien comme ça.
Cette dimension de proximité, elle est donc essentielle et c'est elle qui fait le succès du film.
Oui, c'est ce qui fait le succès du film, mais n'intellectualisant pas non plus le propos, parce que de toute façon, si Moncef Kahloucha le fait, si eux le font, c'est pas dans le sens d'un lien que nous on voit d'une autre façon, probablement non. C'est-à-dire que toutes les choses se font d'une façon assez primaire, d'une façon assez naturelle, et que après c'est vraiment c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est vraiment le regard extérieur et c'est cette approche qui fait que après on interprète, chacun il interprète le film à sa manière, c'est-à-dire que vous voyez un peu ce lien, un peu le cinéma, comment il arrive non seulement à cimenter le quartier, ce quartier dur, ce quartier dans lequel la vie n'est pas si facile que ça, mais aussi à ce que la cassette de Kahloucha soit aussi un lien formidable entre cette diaspora qui vit et qui ne peut pas forcément rentrer en Tunisie et ces gens qui sont restés au bled, et ça reste toujours un lien très très fort entre les deux.
L'idée assez géniale et à laquelle on est particulièrement sensible, l'idée c'est qu'on n'a pas forcément besoin d'idées, justement, qu'on n'a pas forcément besoin de concepts pour faire un film. Il suffit d'une caméra et d'une sacrée grande quantité d'énergie et de détermination. C'est ça qui fait le cinéma en fait, plus que les idées.
Oui, mais l'idée de base, c'est aussi de capter un peu les vibrations, comme on dit un peu pour faire un peu zen. Mais c'est pas que ça. C'est-à-dire que... Après, Moncef Kahloucha aurait pu passer complètement inaperçu. C'est peut-être le seul mérite qu'on a dans ce film, c'était À part la lecture ou à part que le fait que le film soit intrinsèquement bon ou mauvais, ça c'est le jugement du public, c'est pas à moi de le dire, parce que le film de toute façon ne m'appartient plus. Mais le plus important, c'est que cette histoire nous a touchés énormément et que le jour où mon producteur est associé dans Propaganda Production, notre maison de production, Ahmed Marzouk m'a dit, tu sais, c'était en 98 déjà, il m'avait dit, tu sais, il y a un type qui fait des films en VHS, qui est peintre en bâtiment et tout. Déjà, là, je bloque et je me dis, c'est une histoire géniale. Et donc, en partant dans le quartier pour filmer, dans le temps, j'avais une émission donc sur Canal Plus Horizon et on filmait à peine un reportage de 10 minutes. Là, sur place, je me rends compte à quel point le quartier est riche, à quel point il y avait des rencontres et à quel point la proximité humaine nous ouvrait un peu des portes tellement énormes qu'on s'est dit, c'est pas possible, il faut absolument qu'on fasse un film sur Moncef Kahloucha et surtout sur ce quartier incroyable.
Il y a aussi un formidable hommage à quelque chose qui semble être une caractéristique nationale de la Tunisie, c'est la capacité de se débrouiller. Je crois qu'il y a une chanson, d'ailleurs, qui fait partie de la bande-son du film.
Tunisine, oui.
Voilà, et qui dit, les Tunisiens, ils savent se débrouiller depuis tout petit.
Oui, là c'est vraiment de la. Là on est dans le populaire, dans la culture populaire. Et là on est dans le système D, c'est-à-dire que c'est aussi des cultures là où il y a des fois où il faut se débrouiller avec ce qu'on a. Par exemple, je donne l'exemple des années 60-70, là où avant la télévision tunisienne, il y avait la Raiuno, qui est la chaîne publique la chaîne publique italienne. Et si on voit par exemple le nombre de personnes qui ont appris l'italien. Ne serait-ce que grâce à la télévision. Moi, par exemple, je fais partie de cette génération Rai. Moi, quand je vais en Italie, je parle en italien. Les gens ils me disent, mais c'est pas possible que tu aies appris l'italien juste à travers la télévision. Et je crois que ça, c'est probablement c'est ce qui fait un peu partie de la personnalité un peu du Tunisien débrouillard qui, par exemple, dans le film, on le voit. On nous dit qu'il y a des gosses, même de 6 ans, de 6-7 ans, qui parlent 4-5 langues. C'est-à-dire que c'est la proximité, c'est l'observation. Et je crois que comme on parle de traits de caractère probablement social ou je crois qu'il y a des choses comme ça qui transparaissent. Il y a cette espèce de comment dire de débrouillardise qui est propre à chacun et je crois qu'à chaque peuple son point fort et son point faible. Voilà, c'est tout.
Rachel Benita, tu connais la Tunisie?
Oui, j'y ai dansé pour un spectacle de tango, d'ailleurs dans le festival deuxième à Tunis. Dans le Grand Théâtre à Tunis, il y a 2 ans. Et c'était assez fort parce que c'est un spectacle où à un moment donné, je me dénude. Enfin, je suis en soutien-gorge et culotte. La scénographie, c'est de la terre. On court dans tous les sens. Je suis alpaguée, poursuivie par quatre danseurs. Et à un moment donné, je me retrouve épuisée face à l'avant-scène. Et en fait, c'est la première fois que je dansais en Tunisie. Et dans le théâtre, ils étaient. D'aller au théâtre, c'est pas comme ici, avec du silence, un grand silence dans la salle. C'est le spectacle, il est sur le plateau et il est aussi dans la salle, quoi, avec les gens qui réagissent, qui réagissent sur le moindre geste, la moindre action. Et là, c'était fort, quoi. Voilà, donc c'était assez intense ce séjour.
Un
Et j'ai vu le film, d'ailleurs. J'ai vu ton film.
Un pays
Il
très
vous a
chaud.
pas plu.
Et si, il m'a beaucoup plu. Oui,
Merci
oui.
beaucoup.
Oui, bien sûr.
Un pays très chaud, très chaleureux, mais qui n'est pas non plus totalement exempt de critiques, hein, comme partout. Et on a entendu parfois beaucoup d'artistes et de réalisateurs qui dénoncent certaines difficultés de création et de production, de création originale en Tunisie. Ils évoquent l'existence d'une certaine censure. Est-ce que toi-même, Najib, tu y as été confronté?
Écoutez, moi, je parlerai plutôt de mon cas à moi, donc je ne vais pas parler au nom des autres. Moi, franchement, jusque-là, la seule coupe au montage qui a été une. C'est même pas une censure, la seule coupe au montage que je me suis permis, c'est une coupe que j'ai faite tout seul parce que c'était un plan que je voulais absolument pas avoir dans le film. C'était l'afficheur le gosse de 9 ans qui affiche les affiches de Kahloucha et qui, lui, avait les mains tailladées. Parce qu'il fait comme les adultes qui, eux, s'automutilent. Et là, ce plan, c'était vraiment moi Et je voulais le couper parce que je voulais pas voir ça, je voulais pas jouer avec ça. Donc moi, ça me faisait du mal de montrer cette image-là. Mais aucune censure, c'est-à-dire la version du film que vous voyez ici à Marseille est exactement la même version qu'on a vue à Cannes. Et c'est la version aussi qui a été présentée à Tunis le 5 avril. Et jusqu'à nouvel ordre, je n'ai eu aucune instruction de couper ni quoi que ce soit, aucun plan. Franchement, je n'ai pas eu je n'ai pas été encore confronté à la censure.
Eh bien maintenant, je vous propose une petite coupe, mais je vous garantis qu'il ne s'agit pas de censure non plus. C'est une petite coupe musicale.
もう清水の舞台から怒ったつもりだ。持ってけほら。三十。あ、そうだろ。え、どうもありがとう。え、え。これはね、50銭だ、50銭。え、50銭高い。よし、負けちゃおう。45の40。もう一声、35。どうだ、35でこれ、ほら。え、買えないの、これでも。やったな、35で買い、安いんだよな。よし、持ってけほら。買わないやつを、そらつら。
Tous les soirs, vous le savez, dans le cadre de ce magazine, c'est l'occasion de chroniquer les films qui ont été vus au cours de la journée. Une première chronique dans ce magazine par Olivier Robillard. Tu es allé voir, je crois, Lettre à mon ami Paul Seb de Michel Desrois.
C'est ça, Xavier. Documentaire court, 17 minutes, réalisé donc par Michel Desrois. Il y a l'image José Tay, au son Antoine Bonfanti. Michel Desrois invente ainsi le ciné-voiture, trois hommes dans une auto, lui au volant, José Tay à l'image et Antoine Bonfanti au son. Un plan séquence, couleur, de 12 minutes et en quatrième vitesse, une échappée belle baptisée Lettre à mon ami Paul Seb. Rarement le cinéma a paru autant se trouver en se réinventant. Le documentaire est tourné in situ pendant l'aventure des groupes Medvekin de Besançon et de Sochaux entre 67 et 74. Ces groupes montraient la réalité et la souffrance à l'usine, l'humiliation du travail à la chaîne, mais aussi de l'espoir, de l'accès à la culture et à l'autonomie individuelle, sans pour autant intellectualiser à outrance ou déformer le point de vue des ouvriers, en leur apprenant à faire des films, à faire leurs propres films. Lettre à mon ami Paul Seb dans le cadre de l'écran parallèle toutes les nuits, sélectionné par Cyril Nera ici au FID, est donc un road movie en DS, ou plutôt une déambulation de ses trois compères. On débute au coucher de soleil, puis on s'enfonce dans la nuit, on suit les lumières des autoroutes, comme autant de néons qui nous guident, nous bercent. On ne sait alors plus où on est réellement, dans la voiture, dans un engin filant à toute vitesse, perte de tout repère, coupure son, noir total. La bande-son est magnifique et on sent une véritable maîtrise de l'élément sonore avec utilisation de la réverb et de la saturation. Ce qui commence par un simple geste presque anecdotique, celui d'allumer une caméra pour se filmer, devient une ode au psychédélisme routier. Il fut un temps passé, mais très simple, où je t'aurais dit « je t'écris pour te dire ». Aujourd'hui, je te filme pour te dire et je te parle pour te dire des nouvelles d'ici. Mon histoire est sans fin, de toutes les façons, ce sera toujours la même histoire. Une histoire d'homme qui cherche le soleil, rouge bien sûr. Une histoire de soleil à égale distance de tout le monde et si les récits de lune m'intéressent, c'est toujours pour mieux raconter ces soleils. Les étés finissent, les automnes pourrissent et mon histoire est sans fin. Le temps passe vite, nos corps flottent vers le mot fin entouré de débris de pellicule. Juste le temps de raconter une histoire encore. C'était donc un extrait. On the road again, quoi. Pour ce cinquième jour de festival, cela fait vraiment du bien d'être bercé en DS. Cette histoire-là, en tout cas, ne mérite aucune fin, si ce n'est d'être montrée et remontrée encore.
Tu le disais, Olivier, nous sommes le cinquième jour de ce festival. Il reste encore une journée, donc je ne crois pas que ce film Lettre à mon ami Paul Seb soit encore projeté. On reste à souhaiter, bien entendu, qu'il soit diffusé, qu'on puisse le voir sur quelques supports, dans les salles, sur une télévision ou ailleurs. On va reprendre notre conversation avec Nejib Belkadi à propos cette fois-ci du parcours qui t'a amené à réaliser des films. Je crois que tu n'es pas vraiment né avec une caméra dans les mains et que tu as même commencé par entreprendre des études qui n'avaient absolument rien à voir avec ça, puisque tu as fait des études de commerce, je crois, à HEC.
Oui.
Qu'est-ce qui t'a donné l'envie, le virus du cinéma ?
Écoutez, je crois que c'est l'écriture, parce que depuis gosse, j'ai toujours eu cette passion pour l'écriture. Et puis je crois que ça a toujours été une écriture assez visuelle, donc je crois que c'est venu de là. Mais après, c'est-à-dire que moi, je ne crois pas que j'avais l'intention à un certain âge d'être réalisateur ou acteur ou d'être dans le cinéma. Ça s'est fait naturellement, c'est-à-dire que ça avait commencé avec un petit casting pour faire de la figuration dans un film français d'ailleurs, d'Ariel Zeytoun, qui s'appelle Le Nombril du Monde, qui a été tourné en Tunisie en 92. Donc ils sont venus nous prendre, ils nous ont emmenés tous dans un minivan, et puis on s'est retrouvés à faire de la figuration dans les films. Et puis ça avait commencé comme ça, puis je suis devenu acteur, et puis... J'ai jamais vraiment cherché à être dans le cinéma, mais c'est après, quand j'ai eu le virus, et c'est là où ça, il y a eu une espèce de révélation. Donc ça avait commencé. J'avais terminé mes études en 96, et puis j'ai fait du cinéma, du théâtre, de la télé en tant qu'acteur, et puis en 98, j'ai commencé à faire de la réalisation aussi par hasard. Donc il fallait que j'apprenne un peu la technique, et puis mon école, ma vraie école, c'était Canal Plus Horizon, c'est la filiale de Canal Plus à Tunis, donc et dans le Maghreb et en Afrique noire aussi. Et c'est là où, parce qu'on avait une production, j'avais une émission aussi, et c'est là où j'avais filmé Kahloucha pour la première fois, sur le reportage dont je vous parlais tout à l'heure. Et ben voilà, ça avait commencé entre 99 et 2001, et puis Canal Plus Horizon a fermé ses portes à Tunis, et puis on a fondé notre maison de production, moi et Ahmed Marzouk, mon associé, et lui aussi qui a fait HEC. Et voilà, donc première chose à faire, c'était, comme on avait vraiment à cœur cette idée de faire un film sur Moncef Kahloucha, on s'était dit qu'il fallait absolument qu'on fasse le film. Et donc tout l'argent qu'on a gagné sur les pubs, sur les projets commerciaux, eh ben ça a été le financement en fin de compte de ce film.
Est-ce que tu as l'impression que ça vous a été utile au fond, ces études commerciales, pour peut-être mieux vous débrouiller dans le labyrinthe
Totalement.
Des productions?
Totalement, c'est très très important, ne serait-ce que psychologiquement, c'est-à-dire que quand on se retrouve par exemple dans des projets commerciaux avec des gens qui font de la publicité et tout, il y a toujours ce rapport de force qui se fait entre l'agence de com et puis la maison de production. Il y a toujours ce rapport là où, ce regard hautain disons, là où nous on est juste les fournisseurs et puis eux sont les clients, donc il y a toujours ce rapport là mais je crois que c'est dans la tête des gens, c'est-à-dire en Tunisie beaucoup plus qu'en France, je crois les études ont beaucoup plus d'importance, dans le sens où c'est la première confirmation et l'affirmation de soi première, c'est d'avoir déjà le bac, qui je crois qu'on hérite ça aussi de la France, et puis d'avoir les 4 années d'études après le bac, c'est très important dans le sens où c'est une espèce d'affirmation sociale, donc je crois qu'il y a de ça. Et puis au niveau de la gestion aussi, c'est très important dans le sens où on suit mieux les affaires et tout, donc parce que le cinéma c'est pas que de l'art, c'est aussi quand on est une maison de production, il faut gérer aussi l'argent, gérer aussi tout un tas de choses qui sont beaucoup plus du ressort de la comptabilité et de ces choses, enfin du commerce que du cinéma.
Pour produire, il faut vivre, ça c'est clair, et pour vivre, il paraît qu'il faut bosser. Et en l'occurrence, pour pouvoir financer tes productions et des films comme VHS, eh bien tu as d'autres activités par ailleurs, je crois que tu travailles dans la publicité notamment.
Oui, beaucoup, beaucoup dans la pub, je suis réalisateur de pub et puis on a fait plein de choses pour la télévision. Et puis voilà, donc...
Je crois même que pour la télévision, tu as monté un équivalent, enfin plus ou moins équivalent du Loft.
Non, c'était pas du tout ça. En fait, c'était plus on était plus dans le non, c'était un faux reality show. Alors en fait, c'était filmé comme un reportage, enfin comme un documentaire, et puis c'était complètement c'était une espèce de jeu avec le spectateur. C'est-à-dire on a monté une famille avec des acteurs non professionnels. On avait un casting de 40 personnes. On a passé presque 2 mois à chercher les 10 diamants, c'est-à-dire 10 acteurs non professionnels incroyables. On les a eus, et donc on a fait on a joué avec le public, c'est-à-dire on a présenté au public un documentaire en 60 épisodes dans lequel on a suivi cette famille alors que tout était écrit dès le départ. C'était magnifique parce qu'on a travaillé dans une espèce de méthode de work in progress avec un squelette de scénario sans forcément avoir de dialogue, et que ce qui était génial, c'est qu'ils étaient tellement dans le jeu, ils étaient tellement dans la série que c'était génial. Il y avait une caméra qui se baladait, il n'y avait pas de limite, tout était champ, il n'y avait pas de champ contre champ, il n'y avait pas d'éclairage, c'était de la lumière naturelle. Et c'était très bluffant dans le sens où tout le monde, c'était bluffant dans ce sens-là, il y a eu une polémique énorme en Tunisie, c'est que tout le monde ne savait plus si c'était de la réalité ou de la fiction. Et c'est là où c'était intéressant. Mais le dernier épisode, on a fait tout un documentaire, un épisode dans lequel on expliquait à tout le monde que c'était de la fiction totale, quoi, voilà.
La pub, la télé, et puis aussi acteur dans des films de cinéma. Je crois que tu as aussi joué dans un film de Moufida Tatli, oui, qui s'intitulait
La saison des hommes. La saison des hommes. Oui. Donc oui, j'ai roulé ma bosse un peu comme acteur. Je peux pas le faire comme avant parce que là j'ai d'autres responsabilités et que mégalo comme je suis. Non, ça c'est une question d'ego, je crois. Non,
ça a pas l'air. Hein, mais...
Bof, oui, si je le suis quelque part. Enfin, je crois que le fait aussi d'être... Enfin, ce qui me désole un peu, c'est que je n'ai plus vraiment le temps de faire du cinéma en tant qu'acteur parce que j'ai d'autres responsabilités. Mais j'adore jouer. Mais n'empêche qu'il y a aussi une autre chose, c'est qu'il n'y a pas trop de propositions intéressantes. C'est-à-dire que là, j'ai un regard beaucoup plus critique en tant que réalisateur par rapport à mon métier d'acteur. Et puis, je ne crois pas que c'est... Il n'y a pas beaucoup de propositions. Déjà, que la production en Tunisie n'est pas assez féconde, c'est-à-dire les productions, il n'y en a pas beaucoup. La télévision, vraiment, le niveau des productions en télé, c'est pas génial. Et puis, donc, j'ai quelques propositions, mais... Vraiment, pour pouvoir vraiment me consacrer quelque chose comme 30-40 jours à une production et laisser tomber, enfin même pendant un mois ou deux mois, mon vrai métier, je crois que j'exige un minimum de qualité. Donc jusqu'à maintenant, c'est pas génial, quoi, voilà, tout simplement.
Pour en finir avec cette question de la production, comment est-ce que tu as monté la production de VHS? Tu expliquais tout à l'heure que tu étais associé avec Imed Marzou, mais est-ce qu'il y a une part, tu as mis de l'argent personnel dans cette aventure?
Écoutez, c'est l'argent de notre boîte de production, c'est-à-dire que ça a été un autofinancement total, c'est-à-dire que c'est un projet qui jusqu'à il n'y a même pas deux mois est resté totalement indépendant, mais c'est-à-dire qu'il y a eu l'Institut français de coopération qui est rattaché à l'ambassade de France, qui nous a beaucoup beaucoup aidés parce qu'ils ont cru, c'était les premiers à croire au projet. Il y a la francophonie aussi qui nous a beaucoup aidés, mais le plus important c'est que là, c'est le film, il sensibilise de plus en plus les gens en Tunisie. Et le ministère de la Culture, il vient de nous donner une aide à la finition, c'est-à-dire une belle somme en plus qu'on a demandé, pour faire le kinescopage du film qui va se faire le 15. Je remonte à Paris pour faire le kinescopage. Le kinescopage qui est le passage de la vidéo, le transfert de la vidéo à la 35 mm pour pouvoir exploiter le film dans les salles.
Ça veut dire donc qu'on risque de voir bientôt ce film dans les salles obscures ?
Je crois que oui, on est en train de dealer d'ici août. Je crois qu'on va avoir une idée plus précise de ça. On est en train de dealer avec deux distributeurs français qui ont aimé le film, qui l'ont vu à Cannes, et on va voir si on pourra le sortir dans les salles en France, oui.
Parlons de distribution, justement, puisque tu l'abordes. Distribution en 35 mm, le luxe, dans les salles de cinéma, aussi peut-être à la télé ?
La télé, ben oui, il y a aussi la télévision, c'est-à-dire qu'on a des contacts.
En Tunisie ou ailleurs ?
Oui, surtout. Là, c'est vraiment, puisqu'on a fait Cannes et puis le FID et qu'on a d'autres propositions de festivals à droite et à gauche, on est en train de voir si on ne peut pas le distribuer. Enfin, déjà la distribution dans les salles et puis la télévision, c'est très important. Moi, on a eu des contacts avec certaines chaînes et puis. On va voir, je ne pourrais pas vous dire lesquels là, parce que ça reste un peu confidentiel.
Top secret. La sélection, bien sûr, pour être distribué, il est toujours question de sélection. Il est question aussi, bien sûr, de sélection dans ces festivals. Il est question aussi de sélection ici, au Festival international du documentaire. Est-ce qu'à un moment, ça finit pas par devenir un peu trop de sélection ?
Les sélections, en fait, ce qui est un peu dérangeant, pas dérangeant, mais bon, ce qui limite un peu, voilà, ce qui peut nous limiter des fois, c'est le phénomène de l'exclusivité. C'est-à-dire, par exemple, on a beaucoup de festivals qui sont concurrents. par exemple le FID ici est le concurrent direct de l'ITFA en Hollande, qui est un autre grand festival de documentaires. Et donc ce sont deux pôles européens assez importants. Et là, c'est-à-dire qu'on est pris au FID, on est cramé, on pourra
plus être. Il faut choisir son camp.
Exactement, voilà. Et donc, on a plein de festivals comme ça qui sont en concurrence. Et le problème, c'est que après, à part le marché, probablement pourra être à l'ITFA pour le marché, éventuellement pour le vendre aux télévisions, aux chaînes de télé. Le problème, ce qui se pose, c'est que du coup, le film, s'il passe dans un festival, il ne passe plus dans l'autre. Donc, il y a ça comme problème. Et puis les sélections aussi, c'est d'arriver à faire un choix. C'est-à-dire que nous, maintenant, on est en train d'attendre la sélection d'un grand festival américain.
Et le Sundance Festival,
oui,
c'est ça ?
Sundance, éventuellement, oui. Et puis on est plus ou moins bloqué. Mais Sundance, c'est un très grand festival, c'est le portail de l'Amérique. Et si le film est sélectionné, ce serait génial. Donc on attend vraiment on a demandé une dérogation, c'est-à-dire une réponse prématurée par rapport au délai, parce que le festival se passe en janvier, que nous, si on attend jusqu'à janvier, c'est-à-dire pour une réponse hypothétique, c'est-à-dire on n'est pas sûr d'être sélectionné, on risque de perdre beaucoup de festivals qui sont en train de demander le film un peu partout.
Des projets, après tout ça, d'autres films à venir bientôt ?
Oui, long métrage de fiction, j'ai déjà reçu un scénario et puis je suis en train d'en écrire un autre et puis une autre idée de documentaire qui n'est pas la mienne cette fois-ci, c'est une idée qui est venue comme ça. Bon, enfin, on en parlera l'année prochaine.
Là aussi, c'est top secret encore ?
Oui. Parce
allez,
que
une petite esquisse,
oui,
à propos de quoi ?
Parce que ça n'a pas été fait encore et que c'est pas mon idée, je peux pas en parler, mais c'est pas mal.
D'accord, voilà. Merci.
Merci à vous.
On se retrouve dans quelques instants avec Rachel Benita pour parler de son film La Dernière Marche. Le temps d'écouter encore un petit peu de son et puis une chronique. Deuxième chronique de ce magazine, Camille Mesuret est allée voir non pas un, mais deux films, je crois, donc une espèce de double chronique.
Voilà, une double chronique parce que je suis allée voir deux films relativement courts, 26 et 52 minutes, donc ils sont diamétralement opposés, c'est des registres qui s'opposent complètement, mais ils ont un point en commun, c'est que c'est deux films qu'on ne peut pas raconter comme on raconte plan par plan ou moment par moment, comme on a pu le faire les autres jours. Donc deux registres différents et complètement, le premier, assez grave et un peu pesant, qui s'appelle World of Blue, Land of O, par Bran von Pushen. Le sujet, un petit peu en quelques mots, il a passé quelques temps dans un service hospitalier à Bruxelles avec des patients séropositifs qui sont là pour des longs séjours. Alors avec un sujet comme ça, on peut super facilement tomber dans le pathos ou le voyeurisme. Et en fait, la bonne surprise, c'est que ce n'est pas du tout le cas. Il a choisi de travailler exclusivement en éludant le visage de ces sujets. Donc déjà, il a été obligé de multiplier les plans champ contre champ, des détails, des gros plans qui s'accélèrent, qui se ralentissent. Et du coup, ça donne un rendu visuel très, très agréable à regarder. Ça rythme assez bien l'ensemble. Et il a dû passer pas mal de temps dans ce service parce qu'on voit vraiment qu'il s'est attaché à des détails auxquels on s'attache quand on passe du temps soi-même dans ce service-là. On a tous plus ou moins passé plus ou moins du temps dans des salles d'attente. Et c'est vrai qu'on en vient à observer tout et n'importe quoi, des pieds de la table basse jusqu'à la forme des fauteuils. Et ça, il le montre. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, je pense, marque les gens qui font des séjours ou pas dans les hôpitaux. Donc voilà, c'est assez, c'est très bien fait, c'est très respectueux de ces gens. Il n'y a pas du tout de voyeurisme, une espèce de douceur qui sort de ce documentaire. Je pense que c'est en partie lié aux infirmières qui travaillent, qui sont très présentes dans le documentaire et qui s'occupent vraiment bien de ces gens-là et qui ont beaucoup d'humour avec eux. Et c'était vraiment la bonne surprise parce qu'effectivement, on en a vu pas mal de docus comme ça qui souvent sont un petit peu trash. Et là, il a même l'élégance, si on veut, de ne pas nous dire ce qui se passe après. On ne sait pas ce que deviennent ces gens et c'est pas plus mal parce que de toute façon, pour la plupart, on en connaît l'issue, mais ouais, c'est vraiment un documentaire très très élégant et qui laisse quand même un tout petit peu, qui laisse une espèce d'arrière-plan sonore, parce que de toute façon la bande sonore est très travaillée. C'est un docu qui concourt pour le prix son, hein, donc de toute façon il a été reconnu pour ça aussi. Il y a pas mal de travail de télescopage de paroles qui se mélangent, qui se passent l'une sur l'autre avec des effets. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui reste après. Moi, une fois que le film a été terminé, j'ai entendu encore parler les gens. Et ça m'a laissé une espèce de petite nostalgie ou une petite impression de malaise. Donc je me suis précipitée à la vidéothèque pour voir ce que là, en dehors de VHS, que j'ai déjà vu il y a deux jours, donc je me suis précipitée sur un des films de Morin, parce que j'ai entendu pas mal de choses élogieuses sur celui-là, qui s'appelle...
Robert Morin.
Voilà, Robert Morin. Donc je suis allée voir Le Mystérieux Paul, 26 minutes de bizarrerie totale. En deux mots, c'est l'histoire d'un avaleur de couteaux, qui a un accident, qui a quand même 71 ans, et qui a fait 50 ans de cirque et d'avalage de couteaux et autres objets ustensiles de cuisine en tout genre. Accident grave, forcément, il se retrouve à devoir lever le pied, malheureusement. On n'oublie pas 50 ans d'avalage comme ça. Et il se retrouve complètement dépendant de cette chose-là. Donc, on se retrouve avec un bonhomme qui se planque de sa femme pour avaler des néons allumés ou qui s'amuse à avaler de l'essence et à souffler à travers un brûleur à gaz pour faire des flammes. Bon, je ne vous raconte pas la tête de sa femme quand elle l'attrape comme ça et elle le menace de le quitter. Et effectivement, lui suggère qu'il risque de finir aux pompes funèbres tout de suite. Donc voilà, c'est très rigolo. Ça se raconte pas non plus parce qu'effectivement c'est en dehors de cette espèce de truc absurde qui sort. En plus, il a des costumes improbables et l'accent québécois ça fait que rajouter à la chose. On se retrouve un petit peu désemparé devant cet homme qui sait plus quoi faire de sa vie, qui a fait ça toute sa vie. Et l'image de fin est assez triste parce qu'il vient d'avaler un néon, il le ressort avec difficulté, puis on voit vraiment qu'il peut plus, il n'y arrive plus. Et puis il préfère, à la rigueur, il le dit, il préférerait peut-être mourir plutôt que de plus avaler ses couteaux. Donc ça aussi, c'est un petit peu, c'est le truc à double tranchant, si je peux me permettre, parce qu'en fait, on a pas mal rigolé. Et puis finalement, ça se finit sur un homme assis tout seul sur son lit qui regarde sa boîte à couteaux d'un air désespéré. Donc voilà, Morin encore à double sens, comme d'habitude, quoi. Voilà.
Toutes les addictions sont difficiles. Merci beaucoup Camille pour cette double chronique. On va maintenant aborder un parcours assez différent, peut-être libérer Nedji Belkadi, qui je crois a un agenda très rempli et qui va devoir nous quitter. Avec tous nos remerciements, Nedji, à très bientôt.
Merci, bye bye.
Rachel Benita, on va maintenant aborder votre film qui s'intitule La Dernière Marche. Et c'est un parcours un petit peu différent. En fait, c'est la danse qui t'amène à cet acte de filmer. Pour cette dernière marche, en effet, tu es connu, notamment dans la région, parce que tu... Disons-le tout net, tu habites en fait à Marseille dans la région et qu'on a déjà eu l'occasion de te rencontrer, notamment dans le cadre de Dansem, dans le cadre de Danse à Aix. Et je crois que tu as aussi participé au travail de la compagnie Calémenis.
Oui, j'ai dansé pour différents chorégraphes sur Marseille et je vis à Marseille depuis 1999. Ouais.
Qu'est-ce qui t'a amené à passer de la pratique de danseuse, peut-être chorégraphe aussi, à la volonté de prendre une caméra et de filmer? Peut-être est-ce que tu as été déçue par les films que d'autres réalisateurs faisaient de ton travail ou de la danse en général et que tu as voulu y apporter un point de vue personnel?
Non, non, ça n'a rien à voir avec un rapport de déception quelconque. C'est tout simplement... Je viens de terminer, ça fait un an que j'ai terminé une formation qui est une forme qui s'appelle pompeusement formation supérieure en culture chorégraphique. Donc parallèlement à mon travail sur les deux dernières années, je me suis inscrite dans ces séminaires qui étaient dirigés par Laurence Loupe, qui est une figure assez incontournable du champ chorégraphique, qui est à la fois historienne et critique d'art. Et qui avait mis en place cette formation, qui était une formation mi-théorique, mi-pratique. Et à partir de là, on a étudié un certain nombre de textes philosophiques autour de l'esthétique notamment. Et j'ai travaillé sur Walter Benjamin. Donc j'ai découvert ce philosophe comme ça.
Effectivement, ce film La Dernière Marche, tu retrouves en quelque sorte les lieux, les derniers lieux qui ont été habités par Walter Benjamin à Portbou, près de la frontière espagnole, où en 1940, il s'efforçait de quitter la France pour rejoindre l'Angleterre via l'Espagne et où il s'est tragiquement suicidé pour échapper à une arrestation de la Gestapo, c'est bien ça ?
Ouais, alors il tente de fuir la France par l'Espagne pour rejoindre les États-Unis et pas l'Angleterre. Et puis c'est une double menace. C'est pas tout à fait la Gestapo parce que la France du Sud là est en zone libre. Enfin, une partie, mais c'est une double menace d'un douanier espagnol qui, donc, quand il arrive dans le village, lui dit « je vous renvoie à la frontière française ». Et d'autre part, il n'aurait pas eu ce jour-là un papier lui permettant de continuer de circuler en Espagne pour pouvoir prendre le train et être sur le territoire espagnol. Or, ce papier, il s'est avéré qu'il n'était pas du tout indispensable dans la mesure où il y a une absurdité dans cette histoire-là, dans la mesure où il avait son visa pour New York et que donc il pouvait tout à fait circuler sur le territoire espagnol et que cette mesure n'a jamais été utilisée par la suite. Voilà.
C'est donc un corps pour un corps. Le corps du disparu, en l'occurrence l'auteur, Walter Benjamin, et puis le corps d'une autre auteure, en l'occurrence toi, ton propre corps de danseuse, peut-être pour le remplacer ? Ou occuper son espace ? Ou ouais, retrouver son espace ?
Retrouver, aller sur les traces, pas le remplacer, parce que ce serait... il est irremplaçable, et personne l'est d'ailleurs, personne de nous à cette table. Mais voilà, aller sur les traces d'eux est quelque chose qui a à voir avec l'hommage, la mémoire.
La mémoire et la philosophie aussi. Walter Benjamin est particulièrement connu pour être écrivain, mais aussi philosophe. Auteur aussi d'une correspondance très importante. Sans doute l'ouvrage le plus connu de lui, ce sont ses lettres. Quelques autres, par ailleurs un peu moins connus. J'ai relevé par exemple « Hachiche à Marseille », une publication en 1932 dans les Cahiers du Sud, qui doit être assez drôle à lire.
Ouais. Vous l'avez lu ou pas ?
Non.
Ouais, c'est bien. C'est très bien parce qu'il y a notamment... Il était vraiment... je trouve très très fort dans le travail descriptif. Et y a toute une description où il est donc sur le vieux port, à une terrasse de café, et il vient de fumer un joint. Et il se laisse embarquer par cette expérience-là. Donc là, on est quand même en train de parler d'un des plus grands penseurs du XXe siècle, quoi. Et donc, il décrit les gens qui l'entourent. Et c'est très très beau parce qu'il a une acuité comme ça du regard qui est super rigoureuse et vraiment passionnante.
Un genre de Albert Londres en underground finalement.
Quelque chose comme, ouais.
Un auteur d'essai aussi, avec une attention particulière au langage et aux gestes, à la sociologie du langage. C'est cet aspect-là qui aussi a retenu ton attention ?
Alors, moi, je ne me suis pas penchée sur l'ensemble de son œuvre. Hein. D'abord, je continue de lire. Non, je me suis... Enfin, il y a un peu des textes sur le travail du geste qui m'ont intéressée. Mais je me suis surtout penchée sur, sur un texte qu'il a écrit autour de la figure de Baudelaire et notamment de la figure du flâneur. Et c'est ce qui m'a beaucoup, c'est ce qui m'a beaucoup porté sur les trois jours et les trois nuits de tournage à Portbou. Voilà, cette question de la flânerie, de la errance et de comment le regard, comment les regards circulent, comment on observe, comment on est avec ses yeux, quoi. Donc il y a ça. Et il y a aussi des textes très très beaux de lui sur la question des rêves. C'est-à-dire que dans les années 30, au moment où, où la psychanalyse se développe, lui parle de l'expérience du rêve comme, comme d'une chose comme d'un acte créateur ou potentiellement créateur. Donc quelque chose qui est un peu en distance de Freud, mais en même temps qui chemine à côté, quoi. Voilà, donc ça c'était très très précieux pour moi. Et puis comment lui parle de sa errance et de ses promenades, notamment tous ses parcours à Ibiza. Voilà.
Parlons un peu, si tu veux bien, de la manière, du geste de filmer, de la façon dont tu as abordé cet art nouveau pour toi. Quand tu danses, il faut préciser quand même que ce film te montre en train de danser. Quand tu danses, tu coupes l'espace. Quand tu filmes, tu coupes la lumière. Dans ce film, il y a beaucoup de coupes.
Ouais, c'est très saccadé comme ça. En même temps, avec un temps assez lent où il y a eu un vrai désir de laisser un temps de flottement, je veux dire aussi parce que il y a quelque chose de l'ordre de la rêverie qui pourrait se poser là. Mais je suis seule au tournage. Je suis partie toute seule, donc je suis avec ma caméra et. Caméra, mini-disque, mais qui n'a pas été utilisé parce qu'il y avait trop de vent. Donc, le processus de tournage est très simple, quoi. Je pose la caméra, je définis un cadre, donc dans un cadre, un espace qui est sans moi, et puis je vais acter à l'intérieur du cadre. Voilà. Donc, il y a ça d'un côté, et puis il y a ensuite caméra à la main, et je filme ce qui m'entoure.
Cette manière de couper l'espace, elle me fait un petit peu penser à Mathilde Monnier. Je ne sais pas si tu avais vu dans la sélection de l'an dernier du film, un magnifique film de Claire Denis qui s'appelle Vers Mathilde.
Non, je n'ai pas vu celui-là.
Qui est tellement dans un autre registre que le tien, c'est la raison pour laquelle je t'en parle bien volontiers. Il n'y a évidemment aucune concurrence. En tout cas, parlons de l'usage que tu as de la caméra, cet objet étrange que tu as décidé à un moment de t'approprier, et tu en utilises volontiers tous les défauts, et je trouve avec beaucoup de brio. C'est cette capacité des caméras relativement bon marché, hein, j'imagine que le matériel que tu utilises est un matériel courant, c'est cette espèce de difficulté de l'autofocus à trouver un plan sur lequel mettre au point, c'est quelque chose que tu utilises très volontiers, donc un flou modulé d'une certaine manière et auquel répondent d'autres éléments du film. On sent bien que tu en es consciente puisque tu travailles après sur les transparences. On voit la transparence, la translucidité de la paroi d'une douche derrière laquelle tu danses. On voit aussi la translucidité d'un monument apparemment, je crois, dédié à Walter Benjamin, c'est
ouais, ça ? Oui, dédié à Benjamin et aux morts anonymes. C'est un monument très très beau qui a été créé par Danny Caravan. Donc ça, c'est un escalier en fer et donc au fur et à mesure du temps, le fer va être rouillé comme ça et donc il est entouré de parois de fer assez hautes. Donc c'est un espace, un goulot quoi, hein, un goulot d'étranglement, une descente comme ça vers la mer de cet immense escalier en pente, une descente. Et puis en fait au bout, il y a cette plaque de verre où il y a cette phrase écrite sur le fait qu'il est plus difficile de rendre hommage à des gens anonymes qu'à des gens célèbres.
Est-ce que ça devient déjà pour toi une forme d'esthétique, cette manière de jouer sur le flou, la transparence, la translucidité, de jouer sur cette ambiguïté-là? Est-ce que c'est un registre que tu veux t'approprier peut-être pour d'autres travaux à venir?
C'est quelque chose que j'aime beaucoup, oui. Et puis c'est aussi, ça a aussi à voir avec tout l'aspect qui aurait, tout l'aspect d'inachèvement et Et du coup, ça rejoint une certaine forme de démarche benjaminienne. Enfin, je suis pas dans une démarche. Enfin, je suis pas une conceptrice, hein, loin de là. Benjamin était quand même un homme très attaché à la question de l'expérience et de l'inachèvement comme possibilité d'ouverture. Et ça, c'est une chose qui m'intéresse très fort, quoi.
Donc finalement, c'est quelque chose que tu as raisonné tout de suite, d'une manière empirique, d'une manière très sensible. Mais quand tu as abordé la caméra, quelque part, tu n'as pas forcément cherché à adopter un processus théorique, un apprentissage de vraiment classique, orthodoxe de l'usage de cette caméra. D'emblée, tu te l'es approprié dans ses contraintes, dans ses limites, dans ses imperfections. Et ce sont précisément ces contraintes et ces limites qui te plaisent.
Ouais, et puis de toute façon, j'avais vu un film au FID, je sais plus si c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, d'un réalisateur cubain qui parlait de la pauvreté, de sa pauvreté, de ses difficultés techniques à filmer, et où il disait mais je pourrais faire un film, vous me donnez une chanson, une carte postale. Et peut-être un objet, je peux en faire un film. Et ça m'intéresse, la pauvreté. Ouais.
La pauvreté, le vide, un autre élément aussi présent dans ce film, peut-être dans la suite de ton travail. Tu danses au bord du vide, il y a un plan très beau. On te voit danser avec un arbre au bord d'une falaise et on sent vraiment que tu danses près du vide. C'est ce que tu ne peux pas faire sur un plateau.
Oui, c'est ce que je ne peux pas faire sur un plateau, bien qu'on puisse quand même... avoir parfois le sentiment qu'on fait une plongée dans le vide. Mais bon, ça, c'est encore un vaste débat. En tout cas, oui, il y a cette chose-là du vide et de la lisière. Et en tout cas, les 3 jours et les 3 nuits de tournage, je suis... c'est sans douleur. Enfin, il n'y a rien eu de violent. Mais je suis quand même dans un endroit qui est border, quoi. Qui est un entre-deux, qui est un endroit où il y a eu de la mort, où il y a de la vie, c'est un passage d'exil. Donc il y a une chose très... j'étais très à fleur de peau, quoi. Très à fleur de peau.
Autre élément essentiel pour la pratique cinématographique, c'est le montage. Parfois un obstacle vraiment très difficile à maîtriser pour quelqu'un qui n'a pas une grande expérience de ce domaine-là. Et je crois que là, tu as choisi d'être secondée par Hélène Catu. Cette complicité que tu as avec ta monteuse, c'est un élément très important.
Elle est venue assister aux 2 premières projections. Elle pouvait pas être là aujourd'hui. Et moi, j'ai vraiment voulu que dans le générique d'introduction, il soit précisé que c'était une coécriture parce que je suis partie sans scénario de départ. Il y a un désir d'aller là-bas. Et puis en fait, c'était rassembler de la matière image. Et donc, quand j'ai contacté Hélène, j'avais déjà vu son travail par ailleurs, on se connaît par ailleurs, on est amis. Et puis, elle m'a vu danser beaucoup et elle est très impliquée dans le champ chorégraphique, quoi. Et ça, c'était important aussi pour moi, que ce soit à la fois quelqu'un de cinéma, mais aussi quelqu'un qui connaisse la danse et le temps de la danse. Voilà.
En termes de distribution, quel avenir tu prévois pour ce film ?
Alors, c'est pas du tout comme VHS. Non, là, pour l'instant, je sais pas. Peut-être, il va partir probablement. Moi, je m'attendais même pas à ce qu'il puisse être sélectionné dans un festival comme celui du FID. Donc, je suis un peu en plein rêve, quoi. Je dois dire que d'arriver à ce que mon premier film soit là, c'est un grand moment. J'ai beaucoup appris dans ce festival depuis que je vis à Marseille. Quand je suis pas en tournée, je suis enfermée avant à la criée. Enfin, voilà. Et donc vraiment, c'est un immense presque honneur, comme ça, en restant simple. Hein. Et puis après, l'autre chose, c'est ce film, j'ai aussi envie qu'il soit diffusé dans mon cadre de travail, c'est-à-dire dans les théâtres. Et là, il y a des ouvertures avec une conférence après et des discussions avec le public.
Moi, je trouve personnellement que ça le mérite bien. Et en plus, la création, n'oublions pas, elle est faite de rêves. Donc tout le mal que je te souhaite, c'est de continuer encore bien longtemps à rêver et de nous faire rêver avec d'autres films.
Merci.
On va maintenant écouter une troisième chronique, ou plutôt un interview, qui nous est envoyée par Marc Voiry, qui est allé cet après-midi rencontrer Liliane Giraudon. Liliane Giraudon est poète, écrivain, et elle co-dirige les éditions Al Dente, la collection Les Comptoirs de la Nouvelle BS. Ses livres sont essentiellement publiés par POL, et elle est aussi de membre du jury national. Quelques questions sur son intérêt pour cette fonction et son rapport au cinéma.
D'abord, c'est l'étonnement, parce que je ne suis pas du tout... disons que je n'ai... Il ne fallait absolument pas m'inviter, donc, parce que je ne suis absolument pas spécialiste. Le documentaire m'intéresse plutôt au niveau des images fixes que des images en mouvement, donc c'était un grand étonnement. Et puis, après, c'est un intérêt, parce que chaque fois qu'on demande à quelqu'un qui ne doit pas être là d'être là, ça veut dire qu'il a quelque chose à y faire. Donc j'ai accepté.
Quels sont les arguments qui vous ont convaincu ?
Les arguments, c'était ça, c'était qu'un écrivain a quelque chose à dire sur ça, cet objet-là. Et comme la personne qui m'a invité m'avait lu, je lui ai fait confiance en tant que lecteur. Et ça m'a permis de me poser des questions sur, justement, le documentaire, le document, le verbe mentir, le verbe taire, et tout ce qui est à l'intérieur de cette espèce de genre dont on dit qu'il n'en est pas un, et ce que ça a à voir avec le travail d'écrire, avec les genres en littérature, avec ce qui s'appelait, il y a quelques années, la paralittérature, c'est-à-dire cette histoire de mineur et de majeur, qui est une question à l'intérieur de laquelle j'essaie de travailler, de réfléchir un peu, et puis peut-être aussi sera le rapport au monde. C'est peut-être la chose essentielle, c'est-à-dire, bon, finalement, pour parler vite, le fait d'être et d'essayer d'être vivant et de ne pas être dupe dans ce qu'on voit, dans le réel, comme dans les images qu'on nous en propose.
La personne que vous avez invitée, elle avait lu quoi ? Les talibans n'aiment pas la fiction ?
Non. Un jour, elle m'avait dit qu'elle avait lu Palaksh Palaksh, qui était un de mes premiers livres, qui avait un titre, effectivement, qui avait quelque chose à voir avec oui et non, puisque Palaksh Palaksh, c'est un mot qui n'existe dans aucune langue, mais que le poète Hölderlin prononçait dans sa tour, lorsqu'il était, comme on dit, malade, fou. Et il prononçait ce mot en le répétant deux fois, et on ne savait pas si ça voulait dire oui ou non. C'était selon le contexte. Et c'est un mot, après j'ai appris que c'était un mot qui était sans doute d'origine souabe, et il se trouve qu'Hölderlin avait eu une nourrice souabe. Donc tout ça a à voir avec la langue maternelle, avec ce qui se propose, ce qui s'entend, ce qui se voit, et ce que ça signifie.
Et avec le corps, donc.
Bien sûr, mais oui, avec le corps. Alors là, on est évidemment dans un pensif tellement terrible que j'ai honte en disant le mot, mais c'est vrai, tout est corps. Et entre autres, quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans les films que j'ai vus, c'est comment les gens font, par exemple, avec pour peindre des visages, des morceaux de corps et des déplacements dans l'espace. C'est déjà un sacré problème. Et comment eux, en tant que cinéastes, ils se placent devant ou derrière, ils prennent la place des autres, ils parlent à la place des autres, ils s'emparent des autres, ou pas. Ou alors, ils sont là, mais bon, être témoin, c'est pas être témoin, parce que ce qu'on montre, nous montre. Donc il y a tout un travail de l'image. En fait, c'est être au monde, en gros. Et c'est ce que ça nous apprend. Bon, pour moi, ça a été des exercices de lecture qui m'ont amené à me poser des questions que je ne me serais peut-être pas posées de manière aussi radicale si je n'étais pas venue. Et puis aussi des rencontres, parce que il se trouve qu'en dans le jury, il y a des gens que j'ai découverts avec lesquels j'ai parlé, travaillé, et qui m'ont beaucoup apporté, parce qu'ils m'ont amené à me poser des questions que je ne me serais sans doute pas posées autrement.
Qu'est-ce que c'est le cinéma pour vous par rapport à la poésie ?
Le cinéma, c'est une autre manière de se poser des questions, peut-être pas d'y répondre, mais de fabriquer des objets qui fassent qu'on est un peu plus vivant, comme les livres. Il y a beaucoup de faux films, de faux livres. Il y a beaucoup de gens qui font des films, beaucoup de gens qui font des livres.
Avec toutes nos excuses pour la qualité technique très relative de ce document enregistré cet après-midi. Voilà, merci beaucoup à toi Rachel Benita pour avoir participé à cette émission. Merci aux chroniqueurs
merci
de cette
vous.
Émission. Prochain rendez-vous de ce soir à 21h, documentaire sonore dans la sélection proposée par Étienne Noiseau. On écoutera Nomade de Graciela Vandelo, David Leclerc et Christian Copin. Et de 19h à 2h, les DJ de la Grenouille sont sur la terrasse du Faro. Soirée Virgo Musique avec deux artistes de ce label, Danton Eprom et Sarah Goldfarb. Bonsoir.
It was destroyed and then rebuilt by the Greeks, Romans, Byzantines, Arabs, Crusaders, and Mamelukes.
И что сидим с камерой? Вы что улыбаетесь-то? Здесь не до смеха.
It was destroyed again by Napoleon's army and again rebuilt by the Turks. Then came the British conquest and finally the Israelis.
И как мы этот вопрос будем сейчас решать?
What a history.